Lizzie présente Un millionnaire à Lisbonne de J.R. Dos Santos, lu par Pierre Lognet. Nous n'adorons la perfection que parce que nous ne pouvons la posséder. Nous la repousserions si nous la possédions. Être parfait, c'est être inhumain. Parce que l'humain est imparfait. Fernando Pessoa. À Calouste Gulbenkian, parce qu'il a choisi le Portugal. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, ce roman s'inspire de faits réels. Prologue. Je commençais à peine à feuilleter le second manuscrit de mon père lorsque je fus surpris par un cri long et déchirant qui rappelait le hurlement d'un loup. Le bruit venait du couloir, et une fois remis de ma frayeur, je me rendis compte qu'il s'agissait de la voix de Madame Dupré. Affolé, je sautai du lit, repoussai les feuillets sans me soucier qu'ils s'éparpillent, et, encore en pyjama, me précipitai hors de la chambre. Je remarquai une porte ouverte. C'était la suite Philippa de Lancastre où vivait mon père, et la lumière qui en filtrait dessinait un rectangle jaune sur le sol. Je courus à la chambre. En y pénétrant, je découvris la vieille dame agenouillée par terre, recroquevillée sur elle-même et tremblant de tous ses membres, prostrée au pied du lit dans lequel il était étendu. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. « Que s'est-il passé ?» Je n'eus pour toute réponse qu'un gémissement. Je levai les yeux vers le lit et, pressentant le pire, parcourus du regard la forme immobile sous les draps. Je me précipitai vers mon père, et ma première impression fut qu'il reposait sereinement, détaché de l'agitation hystérique qui s'était déclenchée autour de lui. Je me sentis momentanément soulagé, mais ce ne fut qu'un court répit, car je remarquai immédiatement qu'il avait les paupières bizarrement entrouvertes, ses pupilles fixées sur un point indéterminé au plafond, comme s'il regardait sans voir. C'est à cet instant précis que l'émotion m'étreignit. Père. J'ai le vague souvenir d'un maelstrom de sensations se bousculant en une sorte de rêve léthargique, un amalgame confus d'images, d'impressions, d'émotions et de voix. Je me rappelle l'avoir serré dans mes bras et n'avoir relâché mon étreinte que lorsque les infirmières m'arrachèrent à lui et me repoussèrent vers un sofa près de la fenêtre avant de lui consacrer toute leur attention. Assis sur ce fauteuil, abattu, mis à l'écart, j'assistais, impuissant, à un tourbillon de personnes entrant et sortant de la suite. Il n'y eut d'abord que les infirmières, telle une nuée de mouches voltant au-dessus du lit. Puis ce fut le tour des employés de l'hôtel, suivi d'autres clients qui passaient leur tête par la porte. Le gérant en personne arriva, avant le médecin. Deux policiers et, plus tard, l'avocat, ainsi qu'un prêtre catholique. Lorsqu'il fut évident qu'il n'y avait plus rien à faire en vérité, le calme revint. Et les va-et-vient cédèrent la place à une atmosphère de tranquillité teintée de lugubres soupirs. Il y eut des condoléances à mon intention. Quelqu'un dit qu'on avait perdu un grand homme. Le médecin affirma que la science n'aurait rien pu faire de plus pour lui. Le curé fit remarquer que la volonté de Dieu était exaucée. Et au beau milieu de tous ces commentaires, l'avocat évoqua le testament, soulignant qu'il convenait d'en lire le contenu dans les meilleurs délais. Je jugeai son commentaire déplacé, voire indécent, au vu des circonstances, mais gardai le silence. Je lui tournai le dos et m'écartai. Le corps demeura toute la matinée dans la suite de l'hôtel, où se déroula la cérémonie arménienne traditionnelle du Dangark, veillée au cours de laquelle je fus assailli de tant de questions qu'il me fallut sortir de ma léthargie pour y répondre, mais aussi pour mettre en place les préparatifs des funérailles. Ce qui me fit du bien, puisque j'avais ainsi un objectif. Je me mis même à un moment donné à me comporter en général d'armée, donnant des ordres dans tous les sens. Je mandai quérir l'évêque de l'église arménienne de Londres pour conduire les funérailles, car je ne voulais pas de cérémonie catholique, et contactai une entreprise de pompes funèbres. Le problème le plus inattendu se posa lorsque l'employé m'interrogea à propos du cimetière. L'homme me proposa au choix celui des plaisirs, un nom qui me sembla incompréhensible pour un lieu de cette nature, ou le cimetière Alto, de São João. « Il n'y aura pas d'enterrement, précisai-je. Il va être incinéré. » Le petit homme écarquilla les yeux. « Incinéré ? Où ça ?»« Dans un crématorium, voyons, » rétorquai-je, haussant les épaules en signe d'impatience. « Il ne manquait plus que ça, qu'on me demande aussi de choisir le lieu où mon père va être. Vous n'avez pas saisi ?» se hasarda l'employé des pompes funèbres, dont la veste dégageait une écœurante odeur de formol. « Il n'y a pas de crématorium au Portugal !» Cette déclaration était tellement invraisemblable que je me pris à penser quelques instants que l'homme inventait des excuses improbables pour me convaincre de l'enterrer, solution qui devait être plus rentable pour lui. Mais ce n'est pas croyable. Le Portugal est un pays catholique, monsieur Sarkisian, se justifia-t-il avec tant de gêne que je compris qu'il était sincère. Nous n'incinérons pas les défunts. C'est pour cela qu'il n'y a pas de crématorium dans notre pays. J'ai bien peur que votre père doive bel et bien être enterré. Je consultai madame Dupré, et après avoir échangé et passé quelques coups de téléphone, il fut décidé que, après la messe de funérailles que j'avais entre-temps organisée pour le lendemain, le corps serait emmené en Suisse. Une fois cette décision prise et les préparatifs lancés, le propriétaire de l'hôtel m'attira dans un coin discret, et avec une mine de conspirateur, d'une voix chargée de sous-entendus, il me fit savoir qu'on m'attendait au téléphone et qu'il était dans mon intérêt d'aller y répondre. Lorsque je lui demandai qui était en ligne, il se contenta de me chuchoter à l'oreille, toujours avec des airs de grande confidentialité, que l'appel exigeait la plus grande discrétion et qu'il convenait que je me rende dans ma chambre pour le prendre. Sans rien y comprendre, je fis ce qu'il disait. Je saisis le téléphone posé sur ma table de chevet et une voix me demanda de patienter quelques instants. Il y eut un bip, puis plus rien. Je présumais qu'on transférait l'appel.
« Allô ?»
fit quelqu'un en français, rompant le silence.
« Monsieur Krikor Sarkisian ?»
J'ouvris de grands yeux en reconnaissant mon interlocuteur. Il n'y avait au Portugal qu'une seule personne avec une voix aussi flûtée. « Monsieur le président du conseil !» m'exclamai-je. « Oui, c'est bien moi. Comment allez-vous ? » ?»«
Moi bien, depuis la triste nouvelle dont j'ai été informé ce matin. Je me suis dit que je devais vous téléphoner afin de vous exprimer, au nom de la nation portugaise, mes plus sincères condoléances pour le décès de monsieur votre père. Croyez bien qu'il s'agit là d'une grande perte pour le Portugal.
Je vous en remercie, monsieur le président du conseil.
Je vous prie d'excuser mon ignorance, mais quel âge avait-il ?
Je fis un rapide calcul mental. Si mon père était né en 1869 et que nous étions en 1955, cela voulait dire qu'il avait... 86 ans, monsieur le président du conseil.
Il a vécu pleinement sa vie,
proféra-t-il sentencieusement en guise de consolation.
Vous savez, j'ai eu l'insigne privilège de m'entretenir avec lui à diverses reprises et je dois dire que c'était un homme vraiment remarquable. Si remarquable d'ailleurs que je tiens à ce qu'un dernier hommage lui soit rendu en un lieu distingué entre tous. À cette fin, j'ai donné des instructions pour qu'il lui soit réservé le sol le plus sacré qui puisse exister au Portugal, de façon à ce que sa dépouille y soit déposée en une chapelle ardente. J'espère que vous ne verrez aucun inconvénient à ma modeste initiative.
Aucunement, monsieur le président du conseil. J'hésitais. Veuillez pardonner mon audace, mais de quel lieu s'agit-il précisément ? La voix du dictateur portugais s'anima fièrement lorsqu'il indiqua le sol sacré qu'il avait retenu pour les obsèques de mon père.
Le monastère des Hiéronymites.
Le transfert de la dépouille depuis l'hôtel Avise vers le monastère des Hiéronymites eut lieu l'après-midi même. Mais il y avait tant de papiers à remplir, tant de formalités à accomplir, tant de télégrammes à envoyer à Londres, à Paris et à d'autres capitales, que je ne pus me rendre à l'église que le lendemain matin, une heure avant le début de la messe de funérailles. Une surprise m'y attendait. J'avais imaginé dès le départ une cérémonie courte, quelque chose de privé, réservé à la famille, aux amis, avec une poignée d'invités et de dignitaires de l'État portugais et du corps diplomatique de Lisbonne. Mais lorsque j'arrivai à l'église du monastère, je tombai sur une foule immense qui attendait. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je en me frayant un passage dans cette masse compacte. « Il s'est passé quelque chose ? » ?»« Zut alors !» s'exclama madame Dupré qui m'accompagnait et était aussi effarée que moi. « Je n'en ai pas la moindre idée !» À ma grande surprise, le sanctuaire était ouvert au public et des milliers de Portugais s'étaient précipités afin de rendre un dernier hommage aux défunts. Je dois avouer que j'y fus sensible. En fin de compte, ils venaient manifester leur respect, et je ne pouvais y être indifférent.